Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. L'OTAN. À la suite du sommet récent à Varsovie, quels sont les enjeux? Le groupe a publié un communiqué à la suite de leur rendez-vous plus tôt ce mois-ci, qui nous a donné une idée assez claire du message qu'il souhaite passer. Je cite... Les actions agressives de la Russie, y compris les activités militaires provocatrices dans la périphérie du territoire de l'OTAN, et sa volonté manifeste d'atteindre les objectifs politiques par la menace et l'utilisation de la force, sont une source d'instabilité régionale, remettent fondamentalement en cause l'Alliance, ont endommagé la sécurité euro-atlantique et menacent notre objectif de longue date d'une Europe entière libre et en paix. Notre sécurité est aussi profondément affectée par la situation de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui a considérablement détérioré dans toute la région. Alors, disséquons tout cela, un élément à la fois. Premièrement, on ne peut pas, en toute objectivité, dire que c'était la Russie qui a provoqué l'instabilité en Europe, notamment en Europe de l'Est et encore plus précisément en Ukraine. Si la Russie a pu profiter d'une situation instable, c'est évidemment l'erreur de calcul de la part de ceux qui avaient déclenché cette action. Ils attendaient apparemment à un résultat différent. Deuxièmement, c'est évident que l'OTAN tente d'utiliser le résultat en Ukraine pour justifier l'expansion de l'OTAN qui se rapproche de plus en plus à la frontière russe. Le résultat de l'instabilité en Ukraine, qui fut à la base causée par une insurrection encouragée par l'OTAN, a été évidemment négatif pour l'OTAN, puisqu'il s'agissait de l'annexation de la Crimée par la Russie sous prétexte de protection lors de la guerre civile. Troisièmement, mais pourquoi l'OTAN s'inquiète-t-elle de la sécurité des autres pays quand elle a été responsable d'avoir déclenché les conflits dans les pays qu'elle cite comme exemple de victimes d'agressions russes? Ce n'est pas la Russie qui a voulu une insurrection en Ukraine ou en Syrie, par exemple. La Russie a été tout à fait heureuse avec le statu quo dans ces deux pays. Quatrième, si la sécurité fut affectée par les insurrections et le terrorisme en Syrie et en Afrique du Nord, pourquoi ne pas nommer la vraie cause de ces soucis? Je note que le communiqué dit tout simplement que la sécurité de l'OTAN est affectée par ces situations. Alors, phrase en forme passive et non pas active avec le sujet verbe-objet, ne nommant pas l'acteur... Ces problèmes ne sont pas déclenchés toutes seules. Si les pays de l'OTAN se plaignent des problèmes de terrorisme et d'immigration, pourrais-je recommander qu'ils arrêtent d'entraîner des futurs terroristes, qu'ils cessent d'étendre les frontières de l'OTAN afin de capter géographiquement le maximum de terroristes et qu'ils prêtent un peu plus d'attention et de ressources à la gestion de leurs frontières dans le sud du bloc de l'OTAN, là où il y a des réels risques d'immigration dangereuse, et qu'ils obsèdent un peu moins de la frontière de l'Est avec la Russie, qui ne leur présente que des problèmes fantastiques. Pas dans le sens « Hey, c'est fantastique !» Non, je parle plutôt du genre de problèmes qui n'existent pas dans le monde réel, mais uniquement dans leur fantasme. La politique de l'OTAN est grosso modo la politique américaine en version projetée et étendue. Le communiqué d'une trentaine de pages est ambitieux. L'équivalent politique de lancer du spaghetti contre le mur pour assurer qu'éventuellement quelque chose y colle. Nous assistons sans doute à la politique étrangère américaine la plus floue et indisciplinée de l'histoire sous ce président Barack Obama. C'était comme s'ils attendaient tout simplement la prochaine chose à critiquer. C'est très difficile d'y voir une réelle stratégie au-delà de la rhétorique. Amener un chien à un parc et jeter les bâtons à tout va, l'un après l'autre et dans des directions différentes. Le chien zigzague, se montre frustré envers les bâtons et ne parvient pas à les récupérer. Voilà la stratégie de l'OTAN. C'est tellement facile en ce moment de détourner l'attention de ce qui devrait être les priorités de politique étrangère américaine qu'on a du mal à les articuler. On pourrait dire pareil pour celle de l'OTAN. L'exemple peut être le plus pire fut que lorsque l'Amérique était tellement distraite par la stratégie russe envers la Syrie et l'Ukraine, elle avait oublié les terroristes et donc on a vu naître l'État islamique. Ironiquement, l'OTAN risque de commettre la même erreur que l'ex-Union soviétique et de vouloir trop faire et de trop dépenser, de surengager à la fois politiquement et économiquement. Sûrement, l'OTAN comprend que la santé économique est maintenant synonyme de la sécurité. Le communiqué de l'OTAN à la suite du sommet de Varsovie évoque aussi les sanctions, et plus précisément celles imposées sur la Russie par raison du conflit en Ukraine. Mais les sanctions ne font-elles pas tout simplement souffrir l'Europe, qui se trouve alors bloquée dans ses relations signifiantes de commerce et d'échange avec la Russie? Le risque, c'est que le jour où les sanctions seraient levées, la place qu'occupaient les produits européens dans le marché russe pourrait se révéler prise par la marchandise d'autres pays, ou même par des produits domestiques qui ont profité des investissements gouvernementaux, des fonds souverains pétroliers. Que sera le recours pour les pays de l'OTAN qui, comme l'Ukraine, risquent de n'avoir personne pour les amener à la danse par faute d'avoir été séduits par des promesses exagérées? Il y a tellement d'éléments soi-dit prioritaires dans le communiqué de l'OTAN que c'est difficile de cerner les intentions réelles, à part le fait qu'elles penchent sur la Russie. C'est comme si une bande de mecs ont trouvé une machine à remonter le temps et l'avait redigée en pleine guerre froide des années 80. Avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, colonel maître Michel Drapeau est avocat et ancien colonel avec les forces armées canadiennes. Il a plaidé devant la Cour d'appel fédérale, la Cour d'appel de la Cour martiale, la Cour fédérale, la Cour supérieure de l'Ontario et divers tribunaux administratifs. Avant de pratiquer le droit, il a servi dans les forces canadiennes pendant 34 ans. Il a été à la suite directeur du secrétariat du quartier général de la Défense nationale et secrétaire du Conseil des forces armées canadiennes. Il est diplômé du Collège des forces canadiennes, Toronto, du U.S. Armed Forces Staff College, U.S. National Defense University, en Virginie, du U.S. Army Military Controllership School en Indianapolis et du Collège de la Défense nationale à Kingston. Bienvenue à l'émission.
Bienvenue à vous, merci.
Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous demander, vous avez passé 35 ans environ dans l'armée canadienne. Pendant ce temps, comment était votre expérience avec l'OTAN?
Ben, l'OTAN était le point de mire des forces canadiennes à ce moment-là. C'était le poids de notre contribution était au sein de l'OTAN. Tant par la force maritime, dont la totalité, au fait, de ses efforts était sous le contrôle et en collaboration avec l'OTAN comme organisme, une grande partie de notre force aérienne était également soit déployée en Allemagne. Nous avions deux escadrons à Baden-Baden. On avait différentes participations au niveau de l'état-major et pour le reste des éléments qui étaient situés ici au Canada, ça faisait pas partie de l'OTAN, mais encore là, la majorité de nos effectifs, majorité de nos avions étaient directement affectés des missions de l'OTAN. En ce qui concerne l'armée, nous avions une brigade à ce moment-là, une brigade mécanisée en Europe, et c'était toujours les mutations de choix. C'est là au fait que les meilleurs éléments de l'armée canadienne étaient déployés au sein de l'OTAN et ça a été fait depuis 1953 jusqu'à 1993. Alors l'OTAN était certainement de toutes les missions que nous avions et plusieurs d'entre elles étaient des missions des Nations Unies ou des missions à la défense du territoire nord-américain. Mais la mission de l'OTAN était celle qui venait chercher nos meilleurs éléments, tant au niveau des formations et des individus.
Et aujourd'hui, est-ce que l'OTAN est plus élargie que c'était à l'époque?
Pas réellement, parce qu'on a moins de forces stationnées en Europe que nous avions à ce moment-là. Alors, je ne pense pas que la mission et les engagements ont diminué, mais effectivement, en réalité, nos forces se sont déployées, non pas sur l'OTAN, mais en collaboration et avec les forces de coalition en Afghanistan pendant 10 ans. C'est là que le poids de notre armée s'est déployé, une partie de notre avion aussi. Alors, au fil de certainement depuis 1993, il y a une diminution constante de notre contribution, bon an, mal an, au sein de l'OTAN, proprement dit. Il n'y a eu aucune diminution au niveau de la marine et certainement diminution au niveau de l'armée de terre et l'armée de l'air.
Et du point de vue géographique, est-ce que l'OTAN est beaucoup plus répandue aujourd'hui que c'était avant?
Mais certainement, depuis notre retrait des troupes en Europe en 1993, il y a eu un changement stratégique qui s'est produit, politico-stratégique, à laquelle l'OTAN a quasiment doublé en effectif, et certainement le nombre de pays maintenant est beaucoup plus grand. Alors le Canada a continué à jouer un rôle politique au sein de l'OTAN, mais sa participation, certainement, avec des forces déployées en Europe, a diminué, a été, fin pratique, éliminé. Mais l'OTAN a grandi considérablement en pouvoir, en influence et au niveau couverture en Europe.
Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on rajoute des pays? Et est-ce que c'est fait d'une manière stratégique? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on choisit un pays à rejoindre l'OTAN au lieu d'un autre, par exemple?
Ben, je pense que avec l'élargissement de l'OTAN et certainement des pays tels que la Pologne, pour en nommer une, mais c'est également au niveau stratégique, au niveau de sa location géographique, l'étendue de son territoire, l'importance de son économie humaine et financière, ce genre de choses-là. Alors, la Pologne fait partie de l'OTAN dorénavant. La Pologne se situe tout simplement à quelques centaines de kilomètres de l'Union, je ne peux pas vous dire l'Union soviétique, mais de la Russie. Et il y a un processus d'enchaînement maintenant, pas seulement avec la Pologne, mais l'Ukraine est collée sur la Pologne. Et tandis que l'Ukraine devienne très vulnérable, plus qu'au préalable, certainement avec les sorties militaires et politiques russes, mais là, il y a une tendance maintenant d'étendre le cercle d'influence de l'OTAN pour justement venir, c'est ce qu'on fait, en déployant certaines des troupes canadiennes et d'autres en Ukraine maintenant et éventuellement en Lituanie et certains autres territoires qui vont suivre. Alors, il y a c'est comme une tache d'huile, éventuellement, l'influence militaire et certainement politique de l'OTAN a pris un essor considérable après la chute du mur de Berlin et depuis ce temps-là, je pense que les liens se sont resserrés considérablement au sein de l'OTAN avec cet apport géographique, politique et autres qui a presque doublé le nombre de drapeaux qui sont représentés au sein de l'OTAN.
Il me semble que de plus en plus, même depuis la guerre froide, qu'il y a un acharnement, disons, par rapport à la Russie de la part de l'OTAN. Par exemple, l'ancien numéro 2 de l'OTAN, le général anglais Richard Sheriff, que je connais sur le plan professionnel aussi, il vient de publier un roman qui fantasme un peu sur le scénario de la guerre entre l'Ouest, l'OTAN et la Russie. Et de mon point de vue, en tant que quelqu'un assez d'objectif, il me semble qu'il y ait bien des meilleures priorités pour bouffer les ressources. Et on attend maintenant une guerre contre la Russie depuis des décennies. Pourquoi est-ce que ça s'oriente de plus en plus dans cette direction-là, à votre avis?
Ben, probablement suite, et c'est pas la seule cause, mais suite aux aventures militaires faites par la Russie, certainement en Crimée, et puis avec l'Ukraine présentement, et il y a une peur que cette force militaire qui est immense, au fait, qui est avec des militaires, avec un équipement, avec une volonté et un appétit pour gagner du territoire et gagner, au fait, par l'acquisition de la Crimée, mais c'est seulement que le départ des choses. Et lorsqu'on a permis au fait la présence de troupes russes sans être identifiées comme telles, je pense que on prend pour acquis c'était des troupes russes au fait qui étaient déployées avec leur équipement ou leur par proxy des personnes au fait qui supportaient leur ambition géographique. Mais à ce moment-là, il y a un mouvement, un ressac au sein des pays de l'OTAN et certainement ceux qui sont plus près, je fais allusion à la Pologne, à l'Allemagne. Alors, ces pays-là veulent s'assurer d'avoir, ce qu'on dit en anglais, un trépoire, d'avoir une ligne rouge qui est placée sur le terrain pour envoyer un message haut et fort à la Russie que toute transgression certainement vers la Pologne qui fait partie de l'OTAN pour avoir des conséquences militaires très, très désastreuses. Alors, c'est le but, mais malheureusement, nos ambitions nous-mêmes et nos actions pourraient être très mal interprétées par la Russie qui va se sentir assiégée en ayant justement des troupes de l'OTAN sous sa frontière ou tout près de sa frontière.
Ouais, et en plus, je me rappelle qu'il y avait une fuite d'enregistrement d'une diplomate américaine, Victoria Nuland, juste avant le conflit, la guerre civile en Ukraine. Et elle parlait du fait que les États-Unis avaient beaucoup investi dans les mouvements, le soutien des mouvements, des manifestations en Ukraine, et que c'est pas l'Europe qui va arrêter ce conflit maintenant. Et là, je me suis demandé, heureusement qu'il y avait une fuite parce que moi, je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Mais en le regardant d'une manière assez objective et analytique, je me suis dit, bon, c'est pas une manifestation qui a commencé d'une manière organique. Il y avait bien sûr des manipulations, disons. Et en sachant que c'était bien les États-Unis, l'Europe qui était impliquée, ce sont des factions assez importantes au sein de l'OTAN, je me demande pourquoi on peut blâmer la Russie pour avoir réagi afin de protéger les gens qui sont d'origine russe dans l'est de l'Ukraine lorsque il y avait bien sûr une insurrection qui avait pour cause des manipulations de la part du même groupe qui se plaignait de la Russie. Alors, j'ai beaucoup de mal à voir comment la Russie peut être vue en tant que menace quand on le met dans ce contexte-là.
Ben, c'est l'expression qu'on dit, là, qu'on utilise souvent, lorsque vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous l'accusez de rage. Alors, il est facile au sein de l'OTAN de blâmer la Russie pour tous les maux et la présenter comme étant une menace existentielle et certainement si on fait allusion à sa conduite ou son inconduite suite à la Deuxième Grande Guerre, ce genre de choses-là. Alors, l'image populaire dans la tête certainement plusieurs des Européens, mais des Nord-Américains, est que la Russie a des ambitions territoriales sans bon.
Impérialiste.
Impérialiste, oui. Et ceci mène à toutes sortes de dérapages et certainement, nous, vous comme moi, nous avons que des brides d'informations. Je pense pas qu'on a une image complète et exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit et quelle est la vraie menace. Mais d'une façon ou d'une autre, certainement la Russie s'est servie de sa force militaire pour éventuellement acquérir un territoire et c'est contraire certainement à la loi internationale et c'est contraire aux attentes que nous pouvons avoir comme puissance et ceci amène une réaction et là maintenant ce que nous assommes c'est un genre de tic-tac là, d'une part et l'autre et c'est très dangereux parce que quelque chose une simple étincelle pour allumer toutes les choses et là maintenant nous voici que nous déployons une force qui est très symbolique, mais une force sur le territoire à quelques centaines de kilomètres du territoire russe. Et il faut s'attendre à avoir une réaction à ce genre de choses-là, parce que la Russie va voir, au fait, son intégrité territoriale et sa propre sécurité être mis au défi et certainement son honneur vis-à-vis sa propre population, et ceci apporte des réactions. Et si on considère que dans le monde politique actuel, certainement aux États-Unis, il y a une grande une genre d'incertitude à savoir quel genre de gouvernement, quel genre de personnage est-ce qui va habiter la Maison-Blanche et quelle va être la réaction qu'il va avoir à ce moment-là. Tout ça, ça joue un peu dans un mix. Et lorsqu'on considère qu'est-ce qui se passe en Angleterre, qui le départ de l'Europe est un genre d'affaiblissement du bloc européen, je pense qu'on peut voir qu'il y a des conséquences politiques, financières, économiques et autres. Alors, le mix n'est pas vraiment bon pour engager ce genre de jeu-là qu'on dit en termes américains, là, « high noon stake ». Et moi, j'ai peur des conséquences. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut faire? Il semble qu'on se sert du monde militaire présentement pour télégraphier d'une part et d'autre des messages qui devraient se faire par la voie diplomatique et la voie économique peut-être. Mais nous en sommes rendus là et malheureusement, un dérapage est possible. Et si c'est le cas, on pourrait se trouver dans une situation très périlleuse et très belliqueuse dans très peu de temps.
Et c'était quoi votre avis sur le mandat du secrétaire d'État Hillary Clinton lorsqu'elle était chargée, elle avait des relations avec l'OTAN, par exemple?
Difficile à dire, mais je pense que les États-Unis ont toujours eu un certain ambiguïté concernant l'OTAN. Est-ce que, parce que les Américains, c'est quand même le principal partenaire de cette alliance politique et militaire, et ils ont déployé depuis le début des années 50 énormément de forces aériennes, navales et terrestres et ce genre de choses-là, et se disant une grande proportion du dollar américain qui est dépensé au domaine de défense est affecté justement au sein de l'OTAN, proprement dit. Nous avons certainement entendu, vous comme moi, les propos de M. Trump, qui
oui.
faut prendre au sérieux parce qu'il parle d'une partie de la population américaine et voici qu'il déclare tout haut ce que je crois que plusieurs politiciens américains croient aussi, que le moment est venu de regarder de façon assez critique la contribution du fisc américain et d'une part et d'autre part des ressources militaires américaines à cette alliance-là. Est-ce que les Américains en retirent les bénéfices qu'ils croient avoir? Est-ce que eux croient, et je pense que je peux répondre à ma propre question, est-ce que les pays européens assument la pleine responsabilité, certainement le plus possible, la responsabilité de la sécurité de l'Europe? Selon plusieurs Américains, la réponse est non. Cette responsabilité accrue, une grande partie de cette responsabilité accrue maintenant aux forces américaines, et eux autres voudraient s'en détacher un peu parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter dans d'autres hémisphères. C'est là qu'ils voudraient le faire. Alors, ce genre de discussion-là, je pense que ce soit Monsieur Trump ou Madame sa concurrente qui prend le pouvoir, je sais certainement qu'il va y avoir un genre de jeu politique qui va se produire entre les États-Unis d'une part et l'OTAN dans les mois qui vont suivre.
Et pour rajouter à ce que vous avez dit au sujet des propos de Donald Trump, il a aussi dit que l'OTAN est, à son avis, obsolète et a besoin d'être soit réformée, soit remplacée, justement puisque sa structure est insuffisante pour combattre le terrorisme, une menace asymétrique. Partagez-vous son avis là-dessus?
Je pense qu'il est temps de remettre le temps, je pense, dans un nouvel encadrement de 2016 et de revoir au fait la contribution, si sa mission première, soit-elle politique, soit-elle militaire, au niveau stratégie, parce que déjà, on pense, par exemple, déployer les forces de l'OTAN. Une partie d'entre elles se sont déployées en Afghanistan. Est-ce que les frontières de l'OTAN devraient déborder sur le territoire, la géographie de l'Europe seulement? Probablement que oui, parce que le terrorisme, au fait, sa source n'est pas nécessairement en Europe, alors que certains des dommages, certaines des incursions qui sont faites par ces forces terroristes-là se produisent en Europe. Je pense qu'il y aura un besoin de revoir sa mission stratégique et certainement, c'est la volonté du plus grand partenaire que nous avons, à savoir les États-Unis. Et je pense que les États-Unis vont demander que ce genre de redressement-là ou d'élargissement-là se fasse avec une plus grande contribution des pays dont la plupart nord-américains et européens font les frais.
Oui, et on vient d'apprendre aussi dernièrement que le Canada va consacrer des avions de chasse et des soldats aux opérations et exercices de l'OTAN. En quelle mesure le Canada subit-il la pression pour participer? Est-ce que vous croyez qu'il y en a?
Ben, la pression est là, et la pression est évidente lorsque le président Obama est venu s'adresser à la Chambre des communes, aux deux chambres, au Parlement, le mois passé. Son message était très clair, livré avec beaucoup de finesse, beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'amitié, mais son message était très, très, très clair que le Canada doit faire plus. Le monde veut voir plus le Canada qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Et le message était, et il a spécifiquement mentionné que les forces armées canadiennes étaient vraiment un allié de choix, et on s'attendait au fait qu'il fasse plus. Et M. Obama ne s'est pas caché pour dire ce genre de choses-là, qui était dit par d'autres de ses prédécesseurs, mais qui n'avaient pas la même amitié ou qui n'avaient pas la même façon positive de transporter et de faire accepter ce message-là. Et c'est à peine quelques semaines après son appel devant le Parlement que voici que le Canada réagit de façon très appropriée, mais de façon très rapide, en l'envoi d'une, ou certainement de participation à une mission terrestre en Europe de l'Est, et d'une part, et d'autre part, la part de chasseurs canadiens. Alors, le Canada va répondre à l'appel de son allié par la bouche du président Obama.
Colonel Maître Michel Drapeau, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Merci à vous, au plaisir.
Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou desormondial.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.